Vous écoutez France Culture. Bonsoir à tous, bienvenue dans Du grain à moudre, une émission préparée par Céline Leclerc, Fanny Richer et Lara Mercier, réalisée par Jean-Christophe Francis, accompagné ce soir de Jean Frédérics. C'est un texte en 14 points dont le premier focalise tous les débats, le projet de loi ouvrant le mariage aux couples homosexuels est donc depuis près de 2 heures en discussion à l'Assemblée nationale. Vous l'avez entendu dans le journal, son premier point crée l'article 143 du Code civil selon lequel le mariage est contracté par 2 personnes de sexe différent ou de même sexe. Parmi les 125 à 400 000 personnes qui défilaient dimanche à Paris pour le mariage pour tous, combien sont réellement attachés au mariage en soi? Et même parmi les personnes homosexuelles qui venaient le défendre, combien l'on fait par principe et non pour eux-mêmes. Car pour ceux qui en revendiquent l'accès, le mariage n'est qu'un symbole de cette égalité des droits qui peine à s'instaurer. Le Pax, disent-ils, n'était qu'une première étape. Et surtout, il n'ouvre aucun droit en matière de parentalité. Mais alors que la question des noces monopolise donc notre attention, nombreuses sont encore les revendications portées par les militants bi, trans et homo toujours insatisfaites. Inégalité dans l'accès à l'emploi, discrimination salariale, agression homophobe, au sein même des mouvements pour les droits des homosexuels, certains, Trublion, considèrent le mariage comme une préoccupation de riches. Alors il ne s'agit pas ce soir de hiérarchiser l'importance de ces combats, mais de réfléchir peut-être à l'agenda, à l'ordre des priorités qui leur a été donné. La question du mariage a-t-elle occulté les autres ou est-elle au contraire la mère de toutes les batailles? Les militants homosexuels se trompent-ils de combat? C'est notre sujet du jour. Et nous recevons ce soir 4 invités pour en parler, 4 invités dont on peut dire qu'ils ont tous défilé dimanche dernier pour le mariage pour tous, mais dont les positions divergent dans le détail, nous allons le voir. Nous accueillons donc ce soir Cécile L'Huillier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes coprésidente d'ACT UP Paris, à vos côtés Maxime Servulle, bonsoir.
Bonsoir.
Sociologue et militant queer, alors pour le dire vite, la théorie queer c'est celle qui émane de sociologie qui remet en cause le caractère naturel du genre. C'est très vite dit, hein. Voilà. Mais c'est pour le définir, vous enseignez les études culturelles à l'Université Paris 1 et vous avez écrit « Homo exoticus, race, classe et critique queer » chez Armand Collin en 2010. Stéphanie Arc, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, écrivain, auteur de « Les lesbiennes, déconstruction des idées reçues sur l'homosexualité féminine ». C'est au Cavalier Bleu, c'était aussi en 2010. Et vous avez été vice-présidente de l'association S-Homophobie de 2008 à 2009. Enfin, 4e invité, bonsoir Louis-Georges Tin.
Bonsoir.
Alors vous êtes un militant impliqué à la fois dans la lutte contre l'homophobie, puisque c'est vous qui organisez chaque année la Journée mondiale contre l'homophobie en tant que président du comité IDAO, et c'est chaque 17 mai. Mais vous êtes aussi impliqué dans la lutte contre le racisme, puisque vous êtes le porte-parole du Conseil représentatif des associations noires de France, le CRAN.
Et président depuis un an.
Pour vous, justement, je vais rester avec vous, Louis-Georges Tin, pour vous qui êtes de la bataille contre toutes les discriminations, vous en avez fait plusieurs livres, quelles qu'elles soient. Est-ce qu'il n'y avait pas plus urgent que la question du mariage? Est-ce que vous, qui avez manifesté dimanche pour le mariage pour tous, considérez que c'était une priorité?
Alors, c'est une priorité parce que l'égalité, c'est l'article 1 de notre Constitution, c'est le second terme de notre devise. Cela dit, il est certain que pendant qu'à la justice, on se bat pour le droit au mariage, on doit se battre au ministère de la Santé sur la question des trans ou du sida, on doit se battre au ministère des Affaires étrangères sur la dépénalisation. Bref, l'agenda est multiple et on peut avancer sur plusieurs fronts en même temps. Donc, cette question est prioritaire, comme le sont beaucoup d'autres également, en matière de lutte contre l'homophobie et la transphobie.
Donc la vraie revendication derrière celle du mariage pour tous, c'est celle de l'égalité des droits, Cécile L'Huillier ?
Absolument, c'est de l'égalité des droits pleine et entière. Donc moi, je rejoins assez Louis-Georges sur le fait que les questions du mariage, de l'adoption, de la filiation pour les personnes LGBT sont effectivement un début, une étape. Reste beaucoup d'autres questions, notamment d'ordre sanitaire.
Donc, quand on parle d'égalité des droits, c'est avoir la même alternative que pour tous les couples. L'union libre, le Pax, l'union solennelle par le mariage, Stéphanie Arc.
Oui.
tout à fait. D'autant que cette question du mariage, ça permet aussi de repenser l'institution traditionnelle, par exemple, et notamment également, par exemple, ça permet de penser les questions d'adoption, de la filiation aussi, de repenser tout un tas de questions plus larges.
Alors Maxime Servulle, vous êtes beaucoup plus critique peut-être que les trois invités que nous venons d'entendre sur la question du mariage gay. On parlerait peut-être plutôt du mariage pour tous. La terminologie a aussi une importance dans ce débat. Vous écrivez dans le livre que vous avez coécrit avec un autre jeune enseignant, Nick Chris Roberts, livre qui s'appelle Homo Exoticus, que cette question du mariage gay est un exemple parmi tant d'autres de l'institutionnalisation du modèle euro-américain d'identité gay. En gros, ce que vous voulez dire, c'est que le mariage, c'est une préoccupation de riches ?
Alors non, c'est pas exactement ça.
Je crois vous citer.
Tout d'abord, je dirais que, oui, enfin, sur ce passage, on ne parlait pas du mariage. Oui. Mais en tout cas, je pense qu'effectivement, l'ouverture du mariage est une étape sans doute importante, et on est plongé dans ce débat en ce moment. Néanmoins, ça ne peut pas être l'alpha et l'oméga de la politique LGBT. Et ce qui me pose question dans ce débat en particulier, c'est la rhétorique de l'égalité des droits. Sachant que cette rhétorique masque le fait que le mariage lui-même instaure une inégalité entre citoyens. Hein, il faut d'abord parler de l'inégalité fiscale entre célibataires et couples mariés. Et puis, il faut aussi considérer que le mariage est un contrat qui ouvre à une série de droits et qui a pour conséquence que l'entité juridique famille dispose aujourd'hui de plus de droits que l'individu. Donc ma question est la suivante, est-ce que la politique LGBT doit renforcer la politique familiariste ou doit au contraire s'attacher à étendre la liberté individuelle ?
Donc la politique du mariage gay, pour vous, renforce cette disparité juridique qui existe entre l'individu et la famille au bénéfice de cette dernière, de la famille. Louis-Georges Tin, pourquoi est-ce que la famille en tant qu'entité juridique dispose aujourd'hui de plus de droits que l'individu ? Et pourquoi les militants gays et lesbiennes vont-ils renforcer ou vouloir renforcer cette disparité de pouvoir en revendiquant un droit au mariage ?
Alors, le droit familial a des formes multiples. C'est vrai qu'en France, hein, je rejoins ce que dit ici Maxime Servulle, il y a une discrimination de fait entre individu et famille. Ce n'est pas partout comme cela. Mais nous sommes héritiers d'une tradition familialiste. Il y a eu des politiques d'État très lourdes, de la Troisième République, de l'État français, Vichy, de la 4e République, la 5e. Voilà. Simplement, c'est deux débats différents, j'ai envie de dire. D'un côté, l'égalité ne se discute pas. Et de l'autre côté, on peut effectivement repenser d'une manière plus large, c'est ce que disait tout à l'heure Stéphanie, la question globale des droits sociaux, des droits culturels, des droits familiaux, etc. Et donc, c'est deux questions différentes. Au fond, quand les couples de même sexe disent qu'ils veulent se marier, c'est pas pour renforcer la famille. En effet, on a le droit de repenser la question de la famille, de critiquer le droit de la famille, et c'est aussi une question légitime.
D'ailleurs, dans leur manifeste pour l'égalité des droits et l'égalité devant le mariage qui a paru en 2004 dans Le Monde, les intellectuels Didier Ribon et Daniel Borio visaient plutôt, vous le dites dans votre livre, Maxime Servulle, la déstabilisation de l'ordre social. Ils écrivent par ailleurs que c'est parfois en voulant se conformer à des normes qui les excluent qu'un certain nombre de gens font vaciller l'ordre des choses. C'est comme ça que ça peut marcher, Stéphanie Arc ?
Moi, je trouve que c'est parfois un débat assez problématique parce qu'à la fois on fait peser sur les homosexuels l'idée qu'on doit être subversif tout le temps, etc. On a le sentiment qu'on est à la pointe de la modernité, alors j'en suis ravie. Et effectivement, on peut porter ce combat des libertés individuelles qui est un des combats que je porte. Mais je pense qu'on peut saisir ensemble ces deux choses. À la fois, c'est une inégalité flagrante, effectivement, entre célibataires et personnes mariées. On se demande, voilà, c'est une sorte d'intervention de l'État très forte qu'on peut tout à fait critiquer. Et voilà, donc cette liberté de l'individu est primordiale. Mais d'un autre côté, on peut aussi imaginer qu'on dépoussiérerait le mariage d'une certaine manière et que ça va le faire évoluer, puisque c'est une institution, certes traditionnelle, mais qui a évolué depuis toujours, en fait, depuis la Rome antique, qui n'a cessé d'être repensée.
Ceci dit, Maxime Servulle, vous allez loin, puisque vous écrivez que faire du mariage une institution centrale dans la vie des gays et des lesbiennes risquerait d'étendre la régulation de la sexualité en faisant du sexe conjugal la seule expression légitime de la sexualité.
Bien entendu, il ne faut pas oublier que le mariage, c'est avant tout un instrument de régulation étatique de la sexualité, hein, avec la notion de devoir conjugal. Alors qu'on pourrait envisager, toujours avec cette question de l'égalité, on pourrait envisager plutôt la reconnaissance de communautés de vie, de communautés de solidarité par l'État, quel que soit leur lien affectif, quelle que soit leur relation de sexualité, et qui pourrait constituer des communautés auxquelles serait ouverte toute la série de droits, la série de privilèges qui sont aujourd'hui liés au mariage. La politique LGBT qui revendique le mariage, finalement, s'inscrit ou continue à s'inscrire dans une logique selon laquelle l'État régule la sexualité.
Cécile Lullier.
Non, enfin, il se trouve que le CACTOP Paris, donc l'association que je co-préside, est une association de lutte contre le sida issue de la communauté homosexuelle. C'est à ce titre-là que CACTOP Paris a toujours revendiqué l'égalité des droits entre homosexuels et hétérosexuels. C'est en grande partie de la lutte contre le sida que les premières revendications de reconnaissance de tous les couples ont émergé pour des questions strictement d'égalité des droits, donc droits sociaux, patrimoniaux, successoraux, etc.
Dont on va revenir, sur lesquels on va revenir.
Nous, on soutient évidemment toute cette lutte et on s'y implique parce que pour nous il y a urgence et voilà, les personnes les plus concernées seront, enfin quand je pense à des sans-papiers homosexuels et séropositifs qui revendiquent le mariage pour pouvoir bénéficier d'un accès aux soins optimal, je pense pas qu'on puisse parler d'une revendication de l'ordre du luxe.
Donc c'est pour ça, Louis-Georges Tin, que d'un point de vue strictement du droit, le mariage serait la mère de tous les combats puisqu'il permettrait d'un point de vue strictement juridique, encore une fois, d'ouvrir à d'autres droits. Alors, c'est ce que vous défendez.
Moi, je ne dirais pas que c'est la mère de tous les combats. Je ne sais pas ce qui est la mère ou le père de tous les combats. Cela dit, il est vrai qu'il y a là, finalement,
oui,
si on pense à tous nos débats, deux logiques. Il y a la logique réformiste, qui est celle de l'égalité pour tous et pour toutes. Et puis, il y a celle de la logique révolutionnaire, qui est de dire, au fond, c'est ce que disait Derrida, d'ailleurs, dans son dernier entretien dans Le Monde avant de mourir, au fond, il faudrait supprimer le mariage pour tous. Voilà, des institutions plus égalitaires, plus libres. Donc le mariage pour tous ou l'absence de mariage pour tous, voilà les deux logiques qui s'opposent. J'avoue que je n'ai pas de préférence, ce qui m'importe c'est l'égalité.
Maxime Servulle.
Disons que ce qui est intéressant finalement, c'est aussi le rétrécissement de l'imaginaire politique. Le fait que la logique réformiste est devenue la seule logique réformiste, à tel point que le débat sur l'égalité des droits finalement n'a pas été un débat. Puisqu'on a pris la voie du mariage alors que d'autres voies juridiques auraient été possibles. Je pense par exemple à la suppression de la mention de sexe de l'état civil, qui aurait de fait ouvert évidemment l'accès au mariage, mais qui aurait aussi constitué une avancée centrale pour les personnes trans dont un certain nombre souhaitent changer d'identité. Et puis également, ça aurait, d'un point de vue féministe, ça aurait aussi permis, en tout cas, le début de la fin de la production du sexe par l'État, de la production de rôles sociaux liés au sexe.
Alors vous vous demandez pourquoi ne pas, au lieu de se concentrer sur la question du mariage, revendiquer un accès aux droits attachés au mariage, comme l'extension de la sécurité sociale aux conjoints ou l'obtention de visa pour un époux étranger. Fanny Arc, ne serait-ce que la terminologie, aujourd'hui, parler de mariage gay ou parler de mariage pour tous, ça n'a rien à voir. Le mariage gay, c'est laisser entendre qu'il s'agit d'une revendication communautaire.
Oui, tout à fait. Non. Et puis aussi, ça sous-entend quand même, dans l'usage du terme, que c'est réservé aux hommes. Hein, parce que gay, c'est un des combats, d'ailleurs, de SOS Homophobie également. Enfin, c'est-à-dire qu'on revendique quand même cette distinction terminologique. Il faut vraiment utiliser le terme lesbienne, les termes LGBT, parce que sinon, ça dissimule toute une partie de la réalité. Quoi.
Est-ce que c'est parce que les couples de lesbiennes, parce qu'il n'est pas rare dans les couples de lesbiennes qu'elles élèvent déjà aujourd'hui un ou plusieurs enfants particulièrement, qu'elles soient aujourd'hui particulièrement désireuses de se marier ? qui dit mariage dit forcément reconnaissance du deuxième parent.
Ça c'est encore un combat à mener. C'est, d'ailleurs, là, on l'a rappelé à la manifestation, il ne faut pas oublier l'assistance médicale à la procréation dans tous ces débats-là, qui n'était pas un des engagements, d'ailleurs, il faut quand même le préciser, de François Hollande au départ. Hein, mais on est là pour le lui rappeler.
Pas dans les 31, mais pas dans d'autres
pas
lieux.
Pas dans l'engagement 31.
Oui, il s'y est engagé dans d'autres lieux. Et au fond, moi, ce qui me frappe, c'est d'entendre des gens comme Lionel Jospin ou Nicolas Sarkozy, vous expliquez qu'ils sont homophobes, mais, parce qu'il y a toujours un mais derrière, ils ne sont pas homophobes, mais, l'absus révélateur, mais, donc il dit « je ne suis pas homophobe, mais je suis contre le droit au mariage pour les couples de même sexe ». Vous savez, moi j'ai réfléchi pendant 3 ans à un dictionnaire de l'homophobie et je suis arrivé à une définition toute simple de l'homophobie. Qu'est-ce que c'est ? C'est le refus de l'égalité entre homo et hétéro. C'est comme le sexisme, le refus d'égalité entre hommes et femmes. L'antisémitisme, refus d'égalité entre juifs et non-juifs. Donc quand on dit « je ne suis pas homophobe, mais je suis contre l'égalité entre homosexuels et hétérosexuels », on est soit dans la schizophrénie, soit dans la mauvaise foi, soit dans la bêtise.
Je ne suis pas homophobe, mais c'est une construction sémantique que vous avez souvent rencontrée en travaillant aussi sur les questions de racisme. Louis-Georges Tin, puisque nous voulons aujourd'hui aborder la question du mariage en se demandant si elle est en train d'occulter les autres combats chers aux militants homosexuels. Il y a, vous venez de le dire, parmi ces combats, celui contre l'homophobie. Vous avez entendu cet appel de l'association Le Refuge. On l'a entendu encore ce matin sur notre antenne, sur France Culture. Association qui aide les jeunes homosexuels en rupture familiale, qui est basée à Montpellier et qui dit qu'aujourd'hui, en tout cas qu'en octobre octobre-novembre 2012, l'association a reçu 50% d'appels de plus qu'à la même période en 2011. Est-ce que ce n'est pas justement une contrepartie de ce débat sur le mariage que d'avoir libéré la parole homophobe? Et notamment, on le voit sur les forums, sur Internet, à la suite d'articles consacrés à la question du mariage pour tous. C'est souvent sidérant et c'est souvent, justement, on entend beaucoup aujourd'hui d'homosexuels dire « je ne peux plus aller aujourd'hui sur Internet et lire ces articles, c'est trop dur ».
Alors, il est vrai qu'il y a là une expression délibérée, désinvolte, impunément, si j'ose dire. Cela dit, je reste confiant. Nous avons l'expérience du PACS. 3 ans avant le PACS, les 3/4 des Français étaient contre. 3 ans après, les 3/4 des Français étaient pour. Je gage que ça sera la même chose sur le mariage. Je pense que dans 2 ans, M. Copé vous dira qu'il a toujours été pour le droit au mariage pour les couples de même sexe, qu'il a toujours été moderne, qu'il expliquait à ses camarades que c'était une erreur. Vraiment, j'en prends les paris. Et donc, les gens aujourd'hui mènent des batailles pour des raisons politiciennes. Après quelques problèmes, je crois qu'il a eu à l'UMP, c'est l'occasion de recréer l'union sacrée sur le dos des gays et des lesbiennes. Mais demain matin, il vous dira qu'il est moderne et nous aurons à cœur de rappeler à son bon souvenir, les paroles qui furent les siennes.
Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, Stéphanie Arc, comme on l'entend, que l'homophobie est en hausse ou simplement que les débats aujourd'hui l'ont révélé ?
Alors, on peut dire que l'homophobie est en hausse. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les débats l'ont révélé. Ça, c'est très clair. Tout simplement, pour citer des chiffres, à SOS Homophobie, sur la ligne d'écoute de témoignages Internet, on a eu 30% d'appels en plus l'année dernière. Ça a été multiplié par 3 en décembre et multiplié par 4 en janvier. Donc, c'est vraiment. Alors, ça, c'est un hasard incroyable. Ça, c'est la parole divine qui s'est abattue sur... Non mais vraiment, c'est concomitant avec toute cette libération autour de... Et puis des propos homophobes de la part de personnalités publiques totalement injurieuses, irrespectueuses.
Maxime Servulle.
Oui, moi je voudrais rajouter sur l'homophobie, alors je rejoins complètement ce qui a été dit par Stéphanie Arc et Louis-Georges Tain, c'est que ce qui est très intéressant dans ce débat, c'est qu'il y a aussi un enchâssement de l'homophobie avec le racisme et avec la question de l'égalité homme-femme. Hein, il est frappant de constater qu'un certain nombre d'arguments contre l'ouverture du mariage se fondent sur des positions selon lesquelles les différences de traitement entre hommes et femmes sont légitimes. Hein, ça, on peut voir ça très régulièrement, des juristes, des théologiens, etc., qui interviennent dans la Croix ou dans le Figaro, qui donc, par la justification de l'interdiction au mariage, justifie aussi l'inégalité entre hommes et femmes. Et puis, par ailleurs, il y a, je crois, une singulière ethnicisation du débat qui va bien au-delà de l'Institut Civitas. Hein, je pense par exemple à Yvan Rioufol qui insinuait dans le Figaro que cette réforme serait le cheval de Troie des islamistes radicaux puisqu'elle ouvrirait la voie à tout particularisme, etc. Tout le débat sur la polygamie, qui est aussi enserré dans une islamophobie très très forte, qui est l'héritage du quinquennat qu'on vient de quitter. Et puis, pire encore, on a vraiment peu commenté le texte de la Conférence des évêques de France sur un point très précis, selon lequel, donc c'est dans le texte, il faudrait préserver les différences entre hommes et femmes, entre homo et hétéro et entre blancs et noirs. Et on est estomaqué de lire dans ce texte de la Conférence des évêques que la différence entre blancs et noirs, devrait avoir une pertinence dans l'organisation de la vie sociale. Donc ce sont des propos évidemment insupportables, et l'on voit bien que le différentialisme est une machine à broyer l'égalité, et que racisme, sexisme et homophobie sont pleinement articulés.
Louis-Georges Tain, justement, vous qui travaillez sur toutes ces questions, ça doit faire écho en vous, et notamment, ou alors à l'inverse, je ne sais pas, à l'échelle européenne, on voit aujourd'hui des partis d'extrême droite répéter que l'égalité des droits entre homosexuels et hétérosexuels est une force au point d'instrumentaliser ce combat pour mieux stigmatiser les musulmans. Il y a des choses qui s'enchevêtrent et qui ont l'air d'échapper au mouvement LGBT aujourd'hui.
Alors, il est vrai que certains mouvements d'extrême droite ont tenté de faire une sorte d'OPA sur la cause gay et lesbienne de manière opportuniste. On a vu des gens comme Pim Fortuyn aux Pays-Bas et d'autres.
Homosexuels revendiqués et
d'extrême droite. Et qui a pensé qu'il pourrait utiliser cette cause pour justifier l'islamophobie en disant... Les musulmans sont homophobes et sexistes, nous sommes ouverts, nous, Européens et Blancs, par conséquent, nous devons nous fermer aux étrangers, surtout s'ils sont musulmans. Marine Le Pen semble avoir tenté ce genre de choses. À ma connaissance, je ne crois pas qu'elle ait réussi, mais il faut être vigilant. La tentation peut être grande.
Cécile Lhuillier, coprésidente d'ACT UP Paris, c'est votre ancien président Didier Lestrade qui, dans son brûlot « Pourquoi les gays sont-ils passés à droite ?», brûlot d'ailleurs contesté par pas mal d'associations, mais qui dénonce un péril européen, ce qu'il voit comme un péril européen, qui serait une extrême droite xénophobe et pro-gay, les deux en même temps et sur des lignes de fracture qu'elle instrumentaliserait.
Je suis pas certaine qu'un caractère à la fois xénophobe et pro-gay se généralise sur toute l'extrême droite. Après, effectivement, il y a eu des tentatives d'instrumentalisation de nos luttes, donc les luttes LGBT, j'entends, à des fins racistes et à des fins islamophobes. Donc tu cites Marine Le Pen, je sais plus sa tirade, mais elle a osé évoquer les banlieues en plaignant beaucoup les homosexuels qui s'y trouvent. Bon, La droite et l'extrême droite sont homophobes. C'est une de leurs marques de fabrique. Après, le problème dans l'actuel débat, c'est que déjà, il n'y avait pas de débat à avoir. Ce débat n'a pas lieu. La gauche l'a largement provoqué, l'a largement laissé faire et est malheureusement bien silencieuse sur ce débat-là. Faut quand même savoir, enfin, recevoir des homophobes à l'Élysée, c'est un signal politique fort. Autoriser une prière de rue de Civitas en ce moment même, c'est aussi un signal politique. Donc je veux dire, le débat, il y a ceux évidemment qui se lâchent, qui en font un déversoir ordurier, mais il y a aussi ceux qui le laissent faire. On voit leur responsabilité.
On voit quand même des initiatives qui sont prises, notamment par Najat Vallaud-Belkacem, ministre des Droits des Femmes, disons plus largement des questions de genre, et qui a présenté début novembre son plan de lutte contre l'homophobie, qui avait reçu d'ailleurs des associations. ACT UP, vous y êtes allé. Qu'est-ce que vous lui avez dit à Najat Vallaud-Belkacem?
Qu'est-ce qu'on lui a dit? On lui a parlé des trans en prison, il n'y a eu aucune suite. Sur la question, elle a confondu identité de genre et identité sexuelle, et tout ce qu'elle a trouvé à dire au Sénat, c'est que l'identité de genre, c'était une question qui l'intéressait beaucoup d'un point de vue philosophique. Et Najat Vallaud-Belkacem est responsable d'une orchestration de la chasse aux travailleuses du sexe, qui en termes de lutte contre le sida est une disposition inique. C'est vraiment pas notre idole à ACT UP Paris.
Louis-Georges Thin, vous êtes plus tolérant sur l'action de Najat Vallaud-Belkacem. Elle essaye de... Pour vous, ça va quand même dans le bon sens, ce qui est en train de se faire aujourd'hui.
On attend de voir les résultats. Vous savez, moi, je suis très prudent sur un sujet en particulier, la dépénalisation universelle de l'homosexualité. Vraiment, nous n'avons pas de confiance absolue dans ce gouvernement. J'avais rencontré M. Hollande quelques jours après son élection. Il s'était engagé à porter une résolution sur ce sujet au nom de la France, avant le mois de novembre.
Aux Nations Unies.
Aux Nations Unies, et nous y sommes toujours. Donc nous avions porté avec Ramayad une déclaration, c'était même une première historique. Simplement, une déclaration est un texte symbolique qui n'engage que ceux qui veulent bien s'y engager. Donc il faut passer d'une déclaration à une résolution, et cette résolution, nous l'attendons toujours. Ça fait 4 ans que la France s'y engage. Après le départ de Ramayad, les ministres des Affaires étrangères qui se sont succédés n'ont jamais tenu leurs promesses, M. Hollande non plus. Donc, sur Mme Najat Vallaud-Belkacem, j'ai toute l'estime qu'on voudra, mais j'attends les résultats.
Un mot d'ailleurs sur la dépénalisation universelle de l'homosexualité dont vous voulez le fer de lance, Louis-Georges Thin, au niveau mondial, donc universel. On rappelle que 70 pays, je crois, interdisent l'homosexualité. Dans 7 d'entre eux, elle est toujours passible de la peine de mort. Maxime Servulle, pour revenir à votre livre Homo Exoticus, vous parlez de cette dépénalisation universelle de l'homosexualité comme quelque chose qui relève d'une forme d'eurocentrisme, en ce sens qu'elle tend à universaliser une épistémologie sexuelle occidentale. On en revient à notre débat, ou presque, sur le mariage au début de cette émission. C'est aussi un fantasme d'homme occidental, cette dépénalisation de l'homosexualité?
Pas exactement. Je dirais qu'évidemment, on ne peut être qu'en sympathie avec l'objectif qui est porté par Louis-Georges Thin au travers de cette résolution. Néanmoins, l'homosexualité est une forme tout à fait spécifique et singulière de mode d'organisation de la sexualité. Hein, les Grecs, par exemple, n'étaient pas homosexuels. Hein, c'était un dispositif de sexualité tout à fait différent, comme nous le rappelait par exemple Michel Foucault. Bien de la même façon, l'homosexualité est une forme qui est présente effectivement aux États-Unis, en Europe, dans un certain nombre de pays, mais ce n'est pas le cas dans un certain nombre d'États. Et d'ailleurs, beaucoup des États qui, on dit, interdisent l'homosexualité, en fait, pénalisent les mœurs, la débauche, la prostitution, c'est-à-dire que les formes mêmes de criminalisation de l'homosexualité ne passent pas forcément par ce terme qui n'a pas de pertinence sociale et culturelle dans certains territoires.
Mais quand on parle de dépénalisation de l'homosexualité, Stéphanie Arc, il n'est pas question forcément de créer d'autres droits, mais bien de garantir que les droits de l'homme s'appliquent à tous.
Oui, tout à fait. Oui. Et puis que le fait d'aimer une personne, quel que soit son genre ou son sexe, ne conduise pas simplement à la mort. C'est quand même, ça paraît tout à fait simple en fait.
Et Georges Thin.
Oui, absolument. C'est-à-dire que, quelle que soit la manière dont les gens organisent leur vie sexuelle, il est certain qu'il y a des lois qui pénalisent cela. Et non seulement ces lois pénalisent, mais il est parfois question de les renforcer. L'exemple emblématique est celui de l'Ouganda, où depuis 4 ans, une loi est en préparation et qui prévoit la peine de mort pour les homosexuels et des peines de prison pour toute personne qui ne voudrait pas les dénoncer. C'est-à-dire que vous n'avez pas dénoncé votre fille qui est lesbienne, vous n'avez pas dénoncé votre patient qui est séropositif et homosexuel, eh bien, vous irez en prison. Vous imaginez les catastrophes humaines de santé avec une loi comme celle-là. Donc, nous disons qu'il y a évidemment le droit à la liberté, qui est un droit universel, j'ai envie de dire un droit naturel, pour employer un mot qui est cher à certains de nos adversaires, et que ce droit doit être respecté. Et il ne s'agit pas de dire que les gens doivent être homosexuels de cette façon, de celle-ci. Il s'agit de dire que ces lois, qui pour beaucoup sont d'ailleurs issues de la colonisation, doivent être abrogées ipso facto.
Alors, dans le dernier rapport, pour revenir sur ce combat contre l'homophobie, le dernier rapport de SOS Homophobie l'année dernière montrait qu'on faisait dès l'école presque l'apprentissage de l'homophobie. C'est un milieu très dur. Et aujourd'hui, on sait que SOS Homophobie, enfin, je ne sais plus quand c'était l'année dernière, a perdu son agrément pour intervenir dans les écoles. Est-ce qu'on sollicite encore SOS Homophobie? Est-ce que les établissements font encore, toujours, cette démarche quand même de demander à des intervenants de venir expliquer aux élèves, aux enfants, ce que c'est que l'homophobie et parler de ces débats?
Oui, évidemment. Je ne pourrais pas vous citer le nombre d'interventions en milieu scolaire qui ont été réalisées l'année dernière, mais de toute façon, on n'a pas besoin d'avoir l'agrément, même si c'était un choc pour l'association et une terrible déception, mais on ne comprenait pas d'ailleurs. Mais en tout cas, on n'a pas besoin de cet agrément pour aller dans les établissements scolaires qui nous sollicitent toujours. Et puis, c'est fondamental. Alors là, pour le coup, c'est vraiment. Je ne sais pas s'il y a des cours d'homophobie, mais en tout cas, comme on dit, ça s'apprend à l'école, mais en tout cas, militer dès le plus jeune âge, c'est vraiment fondamental.
C'est une question qui est abordée dans certains manuel aujourd'hui, le Georges Tain ?
Alors, pour le coup, je dirais vraiment, l'éducation, c'est la mère de toutes les batailles. Là, vraiment, pour y revenir. J'ai envie de dire, vous savez, il n'y a pas plus homophobe qu'un garçon de 8 ou 9 ans, en fait. C'est-à-dire que les enfants naissent, c'est pratiquement une page vierge. Ils ne naissent pas homophobes, mais ils le deviennent très, très vite. Et après, quand on a un certain âge de raison, on apprend à euphémiser un peu les préjugés. Mais un garçon de 7 ans vous dira, mais oui, moi, j'aime pas les petites filles, ça pleure. Un PD, c'est un garçon qui est comme une fille, donc j'aime pas ça non plus. Et voilà. Et donc, ce n'est que plus tard qu'on déracine plus ou moins les préjugés enracinés. Et nous nous disons, ça serait quand même plus simple d'éviter l'enracinement des préjugés plutôt que d'essayer après, tant bien que mal, de les déraciner. Et nous travaillons justement sur la question des manuels scolaires avec le syndicat de l'édition, non seulement sur l'homophobie, mais aussi le racisme et le sexisme, pour faire des propositions constructives. Nous faisons d'ailleurs...
Mentionner l'orientation sexuelle des personnages historiques ou des grands auteurs dans les manuels, par exemple.
Ça fait partie des choses, évidemment, auxquelles nous pensons. Dans les manuels d'histoire, dans les manuels de littérature, de langue, il y a quantité de choses simples que l'on peut faire. Nous sommes aujourd'hui dans le déni. Il s'agit simplement d'être dans la transparence.
Donc de raconter l'histoire de Rimbaud et Verlaine.
De même qu'on raconte les histoires de Victor Hugo et Juliette Drouet.
Alors, de Colette. Hein. De Colette et Virginia Woolf, pour citer des femmes.
Alors parmi les autres combats qui ont longtemps été menés par les associations de défense des droits des homosexuels et dont on a l'impression qu'on les entend moins aujourd'hui, il y a le combat contre la discrimination salariale et l'accès à l'emploi. Je voudrais vous soumettre cette étude réalisée par deux économistes au Centre d'études des politiques économiques de l'Université d'Evry. C'était en 2010. Et qui établit que les homosexuels hommes gagnent 6,5% de moins que leurs collègues hétérosexuels dans le secteur privé, 5,5% de moins dans le secteur public. C'est assez surprenant comme chiffre, puisqu'on n'est pourtant pas là dans une différence visible entre salariés, comme celle qui expliquerait les différences de salaire entre hommes et femmes. Est-ce que on peut se risquer à dire que ce serait presque une bonne nouvelle, Maxime Servulle, en ce sens que ça voudrait dire qu'on n'a plus peur aujourd'hui de cacher son homosexualité sur le lieu de travail, déjà?
Écoutez, pour moi, ce que révèle surtout cette étude, finalement, c'est la difficulté à mettre en place un plan de lutte contre l'homophobie au travail, et notamment car malgré ces chiffres, la construction de statistiques sur cette question est très compliquée du fait de l'interdiction de statistiques basées sur l'orientation sexuelle. Donc on est là sur des problématiques finalement assez similaires aux problématiques qui sont liées au racisme avec l'interdiction des statistiques de la diversité. Et voilà, pour moi c'est principalement ça que révèle cette étude, et je pense qu'il y a un besoin aujourd'hui de diagnostic. On n'arrive pas réellement à mettre en œuvre un plan, puisque qu'on a un manque de données évident.
Cécile Lhuillier, il existe aujourd'hui dans beaucoup d'entreprises des groupes qui font, alors est-ce qu'il faut dire lobby ou il faut peut-être dire plaidoyer, c'est plus adapté, qui aujourd'hui vont sensibiliser les directeurs des ressources humaines, les chefs d'entreprise à cette question. Est-ce qu'on n'est pas là toujours au cœur de ce paradoxe ? C'est-à-dire que, à la fois, quand on veut lutter contre les discriminations, on doit exister en tant que groupe à part. C'est-à-dire on se met en dehors du droit commun, on est obligé de se particulariser pour avoir accès au droit commun. C'est un des paradoxes de cette lutte pour les droits des homosexuels.
Je ne sais pas si on est obligé de se particulariser. Maintenant, pour faire état de discrimination qu'on subit, il faut se montrer tel qu'on est. On peut pas. Moi personnellement, j'aurais pas pu faire état de discrimination lesbophobe si je m'étais fait passer pour hétéro. Ça aurait pas été.
Parce que
ça
c'est ce qui vous est arrivé au travail.
Il y a très longtemps. Maintenant, je travaille pour Act Up Paris, donc ça va.
mais on est voilà, plus tolérant.
Ça va, c'est la moindre des choses. Non, après, oui, je pense que c'est bah, que ça rejoint la nécessité de visibilité et de voilà une minorité des personnes qui appartiennent à une minorité pour faire état des discriminations qu'elles subissent dans l'optique de les faire cesser. Il faut qu'elles soient entendues et qu'elles se montrent telles qu'elles sont. Donc c'est vrai que ça passe soit dans des syndicats classiques par des groupes de travail ad hoc sur les questions LGBT, sur les questions des discriminations liées à l'orientation sexuelle ou à l'identité de genre, soit à des formations syndicales qui sont dédiées à ça, enfin, je pense à l'homosphère ou ce genre de choses, en sachant que de toute façon ce type de discrimination reste illégal, qu'il faut continuer à les dénoncer. Après, la question n'est pas de se singulariser ou de demander des droits spécifiques, tout au contraire, c'est de demander le droit commun, les droits fondamentaux.
Louis-Georges Étain.
C'est vrai que c'est une question importante, mais le mot homosexuel n'a pas été inventé par des homosexuels. Il a été inventé par des médecins, psychiatres, qui trouvaient ces gens tout à fait anormaux. Le mot sodomite qu'utilisaient les gens d'église, il continue sans doute encore, il n'a pas été inventé par les sodomites, il a été inventé par des curés. Donc ce sont des termes qui ont été construits sur la base de groupes constitués. Et ensuite, il fallait évidemment, à partir de là, que les personnes stigmatisées, condamnées, brûlées parfois, organisent leur résistance sur la base de l'oppression. Donc le mot lui-même est une stratégie de résistance, ce n'est pas une identité que les gens auraient construite pour le plaisir comme ça, de se construire une identité sur cette base-là. Donc évidemment, il faut, je pense, vraiment avoir la perspective historique des choses, et après, on utilise les termes pour les renverser, si j'ose dire.
Stéphanie Arc.
Oui, pour en revenir donc à la question du mariage qui nous occupait, c'est la raison pour laquelle je n'aime pas tellement l'expression mariage gay, parce qu'effectivement on a l'impression qu'on demanderait un mariage particulier ou spécifique, alors qu'on demande simplement l'ouverture et l'égalité entre les individus, quelle que soit leur sexualité, quoi.
Stéphanie Arc, c'était évidemment pour vous faire réagir que je disais que peut-être cette étude qui montre les discriminations dans l'accès à l'emploi et au salaire au sein de l'entreprise entre homosexuels et hétérosexuels est peut-être une bonne nouvelle. C'est évidemment, ce sont évidemment des chiffres qu'il faut étudier avec attention et intérêt. Aujourd'hui, il est assez surprenant de lire, par exemple, cette discrimination serait variable selon la catégorie socio-professionnelle, parce qu'inexistante chez les ouvriers, mais très forte chez les cadres. Est-ce que ça veut dire que plus on est qualifié, plus on est visible, plus on assume son homosexualité. Qui veut répondre,
Maxime? Moi, j'ai vu cette enquête. J'avoue que je connais ces chercheurs et certains de leurs résultats me laissent un peu pantois. Notamment, ils disent que les couples de femmes, que les lesbiennes par exemple, non seulement ne seraient pas victimes de discrimination salariale,
parce qu'elles seraient un peu les salariés parfaits,
un peu plus. Alors vraiment, je tombe des nues. En général, il me semble que les femmes sont plus pauvres que les hommes à cause de la discrimination. Je serais étonné que les lesbiennes le soient. Alors,
en fait, l'étude explique que les couples de lesbiennes sont plus disponibles parce qu'elles n'ont pas de vie de famille. Enfin, c'est ce qui est dit dans l'étude. Alors, et que c'est un peu les salariés parfaits.
Leur étude est intéressante, tout ce qu'on veut, etc. Bon, voilà. Donc, elle a le mérite d'exister. Mais sur ce point, elle me semble à la fois fausse et choquante parce que l'échantillon est fait sur la base de lesbiennes qui se déclarent comme telles, qui sont probablement, du coup, des personnes ayant déjà une assise, une affirmation, et il y a donc un biais particulier, parce que précisément, les lesbiennes qui ne sont pas dans un environnement qui leur permet de se déclarer, sont sans doute celles qui sont les plus discriminées, qui ont les salaires les plus bas, et cela n'apparaît pas dans les chiffres. Donc, à mon avis, il y a un biais méthodologique très fort, ce qui remet en cause certains des résultats.
Il nous reste malheureusement plus beaucoup de temps pour avant la fin de cette émission, et on n'a pas parlé de la question centrale de la santé et du sida.
Et des trans.
Et des transsexuels, évidemment. Cécile L'Huillier, en France, on sait que 150 000 personnes sont contaminées par le sida. Ce sont les chiffres avérés, en tout cas. On sait aussi que les homosexuels sont particulièrement touchés. On a l'impression, mais n'est-ce qu'une impression, qu'on entend moins ACT UP sur ces sujets aujourd'hui.
Ah non, c'est qu'une impression. On ne nous entend pas moins. Après, si on est moins audible, il faut non pas creuser du côté du travail de l'association, peut-être creuser du côté du relais média. Voilà, il y a une pensée mainstream en fait qui est quand même en train de s'installer, tant du côté des pouvoirs publics que du côté de certaines associations, qui tend à dire qu'on voit la fin du sida, qu'on ne meurt plus du sida et que finalement tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. C'est absolument pas vrai. Donc, mon premier propos était de dire que les questions des revendications d'égalité pour tous les couples avaient émergé de la lutte contre le sida. On est toujours mobilisés, évidemment. Et par ailleurs, tout ce qui est, après 30 ans de lutte contre le sida, c'est un fait avéré que les discriminations, les stigmatisations, la répression envers les minorités de surcroît, les minorités sexuelles, favorisent la pandémie. Pourquoi ? Parce que ça entrave l'accès aux soins, au dépistage, à la prévention. Donc non, Acte Paris est toujours mobilisé sur ces questions-là. Et pour revenir à l'objet du débat, les LGBT se trompent-ils de combat ? Non, je pense qu'on ne se trompe pas du tout de combat en ce moment. Simplement, il serait plus que nécessaire de l'élargir, de privilégier un peu plus la convergence des luttes et sur les questions strictement de sida, de s'occuper aussi de la question des sans-papiers, parce que pendant qu'on manifestait dimanche, les expulsions continuaient. La question des travailleurs du sexe qui sont surexposés à l'épidémie et pour lesquels François Hollande n'a pas tenu ses promesses d'abrogation du délit de racolage passif, en sachant qu'à la manifestation de dimanche, la coordination sans-papiers 75 était présente et le syndicat du travail sexuel était présent aux côtés des LGBT. Donc ce serait la moindre des choses de soutenir aussi leur lutte.
Donc le mouvement LGBT n'est pas un mouvement égoïste comme on l'entend parfois aujourd'hui parmi certains détracteurs, Maxime Servulle?
Non, je ne le crois pas. Je crois qu'il y a effectivement beaucoup d'initiatives qui vont dans le sens d'une convergence des luttes, comme le soulignait Cécile Huillier. Et je crois qu'effectivement, il faut simplement qu'on garde toute notre vigilance, aussi bien dans les débats qui s'annoncent que dans la suite, hein, c'est-à-dire effectivement sur la politique de santé, sur les droits des trans, où là, effectivement, on se demande un petit peu quel va être l'agenda du gouvernement là-dessus, puisqu'on a eu finalement peu de déclarations à ce sujet. Et puis également sur le droit des travailleuses du sexe, où là, effectivement, le délit de racolage passif n'a pas été abrogé. Et puis, il y a même surtout des projets un petit peu inquiétants de pénalisation des clients.
Louis-Georges Tain, encore une fois, vous qui êtes du combat contre toutes les discriminations, il y a une convergence des combats qu'il faut maintenir, qu'il faut cultiver.
Mais c'est essentiel. Vous savez, je vois parfois des professeurs qui nous disent « Moi, je suis républicain, je suis contre les discriminations, mais je dois faire mon programme d'histoire, de mathématiques, et donc j'attends la fin de l'année, et si on a un peu de temps, après juillet, on verra bien. » Je leur ai dit la chose suivante. Vous savez, si formidable que soit votre cours d'histoire, de maths ou de français, si vous avez un garçon malentendant qui n'ose pas le dire parce qu'il a peur des moqueries, si vous avez des filles qui sont harcelées par des garçons, si vous avez des garçons qui harcèlent les filles parce qu'ils ont le sentiment d'être exclus parce qu'ils sont de banlieue, si vous avez parmi ces garçons un qui est homosexuel et qui n'a pas envie de prendre la parole parce qu'il a peur qu'on sache qu'il est homo, eh bien, si formidable que soit votre leçon, elle ne passera pas. Par conséquent, l'éducation et la prise en compte des discriminations n'est pas un supplément d'âme que l'on doit faire après le cours, mais bien au contraire un préalable à tout enseignement.
Alors pour conclure, on a rappelé tous ces droits que les homosexuels revendiquaient et continuaient à revendiquer, ne pas se faire insulter dans la rue tout simplement, avoir les mêmes conditions d'accès à l'emploi que tout le monde, être payé comme les autres, mais il y a un prix à payer à cela. Pour cela, peut-être devoir à terme abandonner cette mission d'être une sorte de fer de lance des opprimés, c'est cette condition pour la normalisation tant réclamée, Louis-Georges Tain.
À vrai dire, ce pourquoi nous militons, c'est que les gens aient le choix. Stéphanie disait tout à l'heure que nous n'avons pas vocation à être subversifs. Nous avons vocation à rendre possible toutes les subversions et que les gens, qu'il n'y ait pas d'injonction à la normalité, pas plus qu'il n'y ait d'objection, d'injonction à la subversion. Voilà. En gros, il n'y a une seule exigence, la liberté.
Et vous savez, le reproche qui vous a été adressé par certains chercheurs, notamment, c'est ce mouvement de fond qui s'opère, ce transfert des luttes du domaine économique vers le domaine culturel, un peu comme si le choc des cultures avait remplacé la lutte des classes. Qu'est-ce que vous répondez à cela ?
Qu'il n'en est rien et que le jeune maghrébin qui est victime de discrimination et qui est ouvrier ne saura pas choisir s'il est plus dominé en tant qu'ouvrier ou dominé en tant que maghrébin, c'est les deux.
Maxime Servulle.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Et effectivement, je crois qu'il faut toujours retravailler cette question de l'égalité pour l'ouvrir de plus en plus. Et là, on voit que, pour terminer sur le débat d'aujourd'hui qui vient de s'ouvrir à l'Assemblée, quand on voit les 5000 amendements de la droite, on voit très bien, lorsqu'on les lit, que c'est un débat qui effectivement va bien au-delà de la communauté LGBT et que ce qui est remis en cause par les opposants, c'est le droit de la famille tel qu'il existe depuis 60 ans, avec des amendements qui proposent l'interdiction des mariages binationaux, qui proposent d'interdire interdire l'adoption par les célibataires. Voilà, donc on voit bien que la droite, on a désormais 5000 preuves que c'est la droite la plus bête du monde, la droite française.
Bon, c'est votre conclusion. Merci beaucoup à vous, Maxime Servulle. Je rappelle que le texte est en débat depuis maintenant 3 heures à l'Assemblée nationale, que les députés ont prévu, si nécessaire, de siéger jour et nuit, week-end compris. Le vote en première lecture est prévu pour le 12 février avant d'être examiné par le Sénat. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Louis-Georges Tin, Cécile Lhuillier, Stéphanie Arc, je rappelle le titre de votre livre, Les lesbiennes, déconstruction des idées reçues sur l'homosexualité féminine, c'est au Cavalier Bleu et c'est paru en 2010. Homo exoticus, race, classe et critique queer, c'est le titre de votre livre, Maxime Servulle, coécrit avec Nick Rhys-Roberts et c'est chez Armand Collin.